France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Un été en pente rude pour les 28 qui vont devoir trouver des réponses aux questions que le monde leur pose. L'accord trouvé vendredi sur les migrants montre déjà des signes de fragilité. Sur le terrain méditerranéen, la confusion est à son comble. Faillite des États européens, dénoncent les ONG. Refouler, dissuader, sauver, accueillir, des actions en tension. Mais pour éviter que la crise politique et humanitaire ne s'aggrave, il va falloir que les 28 quittent la ligne de flottaison. Scénario aujourd'hui avec notre invité, l'ancien journaliste, professeur d'études africaines à l'université de Duke aux États-Unis, Stephen Smith. Au printemps, la sortie de son essai La ruée vers l'Europe chez Grasset a surpris par ses thèses originales. Il vient d'ailleurs de recevoir le prix Brienne du livre de géopolitique qui lui a été remis par Jean-Yves Le Drian. Bonjour à vous, Stephen Smith.
Bonjour.
Le ministre des Affaires étrangères qui a salué votre diagnostic réaliste de la crise migratoire, une pression migratoire qui va crescendo, une bascule démographique qui ne peut rester sans conséquences. On va y revenir, mais d'abord, quel serait votre diagnostic réaliste de la crise politique qui se déroule une fois encore en Europe ?
Je constate, d'abord réaliste, c'est bien quand on parle de l'avenir, donc il faut attendre, mais dans l'immédiat...
On ne peut pas être réaliste dans le présent.
Voilà, c'est ça, merci beaucoup. Mais ce que je constate, c'est que la crise politique survient à un moment où il n'y a pas de crise migratoire, dans le sens qu'il n'y a pas un afflux. On est revenu au niveau qui était antérieur au grand pic, à l'année record de 2015. Et aujourd'hui, les politiques s'en saisissent parce qu'il y a une compétition politique. Donc c'est bien une crise politique. Et on ne réfléchit pas à l'avenir dont je parle moi, c'est-à-dire cette vague migratoire qui est liée à la transition démographique de l'Afrique. Donc, on n'est pas dans cette temporalité-là. Mais en même temps, on fait aussi semblant que l'absence d'afflux, c'est aussi la fin de la crise. Donc, on est dans la digestion de la crise de 2015. C'est les réfugiés secondaires, c'est-à-dire les mouvements de ceux qui sont entrés en Europe, qui ont été déboutés et qui maintenant vont d'un pays à l'autre. Donc on est entre deux choses, entre l'actualité et la prévision de l'avenir.
En fait, pour reprendre le titre de votre essai, la ruée vers l'Europe que vous pronostiquez, on n'y est pas encore.
Non, on n'y est pas encore, puisque l'Afrique devra passer à un premier seuil de prospérité, puisque l'une des thèses qui a surprise, et ça m'a surpris que ça ait surpris, c'est que des gens ne migrent pas quand ils sont très très pauvres. Ce n'est pas le villageois sahélien qui un jour se lève et se dit « je pourrais aller à Londres ou à Paris ». Ça se fait seulement quand il y a un minimum de moyens. Il faut quand même 2 à 3 000 euros pour se mettre en route. C'est à peu près le revenu annuel dans plusieurs pays subsahariens. Donc ce n'est pas rien. Il faut avoir aussi une vision du monde, peut-être un contact dans la diaspora. Donc beaucoup de conditions à remplir. Et l'Europe, c'était à la fin du 19e siècle que les gens sont partis massivement. 60 millions d'Européens sont partis, 43 millions vers les États-Unis. Et je prévoit que l'Afrique va atteindre ce seuil très bientôt. Je ne sais pas si ça va se déclencher brutalement ou si c'est une montée en puissance, d'où ma précaution par rapport au réalisme. Nous jugeons à partir des précédents historiques, on ne peut pas exactement prédire comment ça va se répéter, c'est chaque fois dans des conditions singulières.
Mais alors comment vous expliquez, Stephen Smith, les déclarations alarmistes, voire très fermes de certains dirigeants européens? On peut penser à Matteo Salvini, l'Italien, qui parle de faire tomber le mur à Bruxelles, est-ce qu'on en est là ?
Je constate qu'il y a une prise de conscience qui consiste à se regarder en face et de regarder la migration qui a commencé en gros après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a une volonté politique, je ne la juge pas, mais elle est extrême, qui veut remettre en question toute la venue des étrangers chez nous en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est la crise politique qui est encore dans une autre temporalité. Là, on voudrait revenir sur l'intégration en Europe de populations qui viennent du tiers-monde. Ça, c'est très radical. Et bien sûr, les politiques réagissent par rapport à ça, puisqu'on appelait ça du populisme. Populisme qui est un mot à défaut quand on n'est pas très d'accord avec la voix du peuple.
Et vous le rappelez, c'est vrai qu'il y a aussi une quinzaine d'années, quand les chefs d'État ou de gouvernement se retrouvaient, ça avait été le cas notamment à Lisbonne, la question des tensions qui pouvaient paraître déjà ou apparaître autour de cette question des migrations et de l'immigration n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est un sujet omniprésent dans tous les conseils européens et c'était le cas à l'issue du Conseil européen de vendredi. Donald Tusk a annoncé un consensus sur les migrations acté par les 28 à Bruxelles. Les premières déclarations étaient très optimistes mais assez rapidement, d'autres voix se sont élevées pour fustiger cet accord dont l'un des points clés est la création de centres d'accueil sur la base du volontariat. Emmanuel Emmanuel Macron, le président français, a lui modéré son enthousiasme quelques heures après, en estimant que le texte ne règle pas à lui seul le phénomène migratoire ni les crises politiques liées. Mais ça semblait être un début. Écoutons, si vous le voulez bien, d'abord les déclarations de l'Italien Giuseppe Conte et d'Emmanuel Macron.
À la fin de ce Conseil européen, nous avons une Europe plus responsable et plus unie. L'Italie n'est plus seule.
Nous avons trouvé un accord qui est conforme à nos valeurs, qui apporte des éléments de réponse en termes de responsabilité et de solidarité et qui nous permet d'avancer. Ceux qui pensent que parce qu'ils sont pays d'arrivée, ils peuvent avoir une réponse nationale, la belle affaire. Mais nous leur imposerons la même chose sur la solidarité financière. On leur renverra encore plus rapidement les migrants qui se sont égayés à travers l'Europe et qui ont été enregistrés la première fois dans leur pays. Et donc vous voyez bien que le jeu non coopératif et nationaliste, non seulement n'est pas digne de ce qui a fait l'Europe, mais il est en plus profondément inefficace compte tenu de la réalité de ces phénomènes migratoires.
Stéphane Smith, dans ce concert européen, quelle voix feriez-vous vôtre aujourd'hui? Qui a aujourd'hui la bonne réaction?
Ça, c'est très difficile à dire puisque c'est des choix politiques, mais je pense qu'il y a quelques principes qu'on peut poser. Un premier principe consisterait à dire que ceux qui sont chez eux, et ça inclut évidemment tous les migrants qui sont arrivés, qui sont devenus des concitoyens, donc c'est pas du tout un nativisme, mais on ne peut pas adhérer à un club et en changer les règles. Donc c'est bien, faute de mieux, les États-nations qui décident, qui entrent et qui n'entrent pas. Maintenant, on a aussi abdiqué une certaine souveraineté à l'échelle communautaire. Donc je pense que la Hongrie ne peut pas dire, parce qu'elle a le fantasme de rester ethniquement pure, qu'elle ne peut pas accueillir des réfugiés ou des migrants. Là encore, évidemment, il faut savoir faire évoluer les catégories. Si le droit d'asile commence par un abus de confiance, bien sûr, on va éroder la confiance que les habitants auront dans ce droit d'asile. Donc il faut absolument... C'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des migrants économiques. Si j'étais africain, je migrerais probablement avec ma famille, mais c'est quand même une différence, c'est-à-dire j'ai un droit d'asile où je fuis un danger de mort immédiat, où j'ai la volonté de chercher à optimiser les chances de vie pour moi et les miens. Donc il faut un peu clarifier les choses, le principe qu'on ne peut pas faire le compte sans l'autre, mais en même temps savoir que la frontière n'est pas non plus une barrière, la frontière est toujours un espace de négociation, et l'Europe est voisine de l'Afrique, et donc il n'y a rien qui puisse se passer en Afrique dont l'Europe peut se désintéresser.
Mais vous ne baissez pas les bras après un week-end comme celui-ci, quand vous entendez effectivement des déclarations aussi contradictoires. D'un côté, l'Italie, avec Matteo Salvini, qui dit que cet été sera porte et port fermé aux bateaux et aux ONG. Le patron de la Ligue qui s'est félicité dimanche de son premier bilan. 3 bateaux d'esclaves en un mois ne sont pas arrivés en Italie. La Hongrie, vous l'évoquiez, qui décide et déclare qu'elle ne deviendra pas un pays de migrants. Ça, ce sont les mots de Viktor Orban. Merkel, Angela Merkel, qui en Allemagne se retrouve en prise avec son ministre de l'Intérieur de la CSU, Horst Seehofer, et qui entend lui refouler tous les demandeurs d'asile enregistrés dans un autre pays de l'Union. Ça, c'est juste pour un début de constat sur ces voix dissonantes, alors qu'un consensus devait être trouvé. J'avais envie de vous demander, sur des sujets aussi sensibles que celui des migrants, que celui du climat, est-ce qu'il faut laisser ces sujets, ces questions dépendre des alliances électorales, des majorités éphémères, des politiques politiciennes? Est-ce qu'il ne faudrait pas confier toutes ces questions à une sorte de vaste comité des sages européens?
Non, je ne crois pas. En vous écoutant, je désespère un tout petit peu, puisque c'est vrai que ces déclarations sont assez frappantes. En même temps, je pense qu'il faut faire attention de ne pas mettre des personnes, et notamment des politiques, dans une situation où ils ne peuvent avoir tort. Ce que je veux dire par là, on leur a reproché la coupure du peuple, qu'ils ne prenaient pas en considération, vous en parliez, en 2000, on ne pensait même pas à la migration. Ils étaient donc un peu offshore et maintenant ils commencent à s'intéresser à ce qui agite l'opinion publique. Et je ne vais pas leur en faire le reproche. Ils ne font pas encore de la façon dont on le souhaite, mais je pense que les sages, ça n'existe pas. C'est un tout petit peu le rêve, parfois en Afrique, du dictateur ou du tyran éclairé. Les sages sont sous influence comme le sont les politiques. Les politiques sont là pour écouter leurs électeurs. Ils le font d'une façon, pour l'instant, encore insatisfaisante, mais ils prêtent déjà l'oreille à ce qui se dit. Je pense que c'est un début, il faut l'encourager. Et je suis agréablement surpris de pouvoir, depuis des mois, discuter de la migration sans avoir de polémique à la suite de la sortie d'un livre dont j'avais un peu peur qu'il allait m'entraîner dans la politique. Donc je pense qu'il y a une façon d'ouvrir un espace pour la conversation et de se retrouver autour, pas forcément d'un consensus, mais autour d'une façon d'avancer et de regarder les faits.
Mais votre essai est politique.
Il est politique, bien entendu, mais j'ai essayé de le coucher, si je puis dire, dans un langage qui ne heurte a priori personne. Après, il y a des accords, ça c'est tout à fait normal. Mais d'enlever cette pointe, j'ai tout compris, je vais vous expliquer et vous avez forcément tort. Donc à partir de là, on peut se retrouver et je reste optimiste sur ça. Je pense aussi qu'il sera dangereux de renvoyer toute la classe politique européenne comme étant incapable, puisque plus on dénigre les politiques, plus on attire des personnes pas forcément très recommandables vers la politique qu'on présente comme étant sale.
Emmanuel Macron a loué votre livre, un phénomène formidablement bien décrit dans une interview face à Jean-Jacques Bourdin et à Edwy Plenel. Est-ce qu'il en tirera les leçons? Est-ce que dans les propositions qu'il fait aujourd'hui, vous avez le sentiment que votre diagnostic réaliste, pour reprendre les mots de Jean-Yves Le Drian, a été repris, a inspiré la position française sur cette question à Bruxelles?
Je constate en tout cas que quelqu'un qui a priori n'avait pas un vécu particulier en Afrique, pas des liens particuliers en Afrique, qui ressemble donc à ce titre, alors qu'il vient d'un pays postcolonial, beaucoup plus aux Européens normaux, si je peux dire, ordinaires, les Allemands, d'autres qui n'ont pas de passé colonial, que Emmanuel Macron a dit des choses sur l'Afrique qui me paraissaient être dans l'essentiel. Puisqu'après tout, il est parmi les premiers à avoir regardé l'Afrique comme un défi démographique et non pas un défi de pauvreté, le continent de l'homme noir, peut-être le continent des traumatismes historiques. Donc je trouve qu'il a posé un regard novateur et qu'il parle aux Africains, je pense notamment quand il s'est déplacé dans le Sahel, d'un langage plus direct qui permet aussi de lui donner la réplique. Et je trouve ça plutôt bien. Parfois on lui a reproché cette franchise, je la trouve assez saine.
Ça, on va reparler de la politique africaine de la France aujourd'hui avec cette nouvelle tournée qu'entame dès aujourd'hui d'ailleurs Emmanuel Macron, qui va l'amener notamment en Mauritanie avant qu'il se rende au Nigeria. Sur cette position française au sein du Conseil européen qui est quand même très dissonant actuellement, on a célébré ce week-end Simone Veil à l'occasion de son entrée avec son époux au Panthéon. Est-ce que le rêve porté par Simone Veil vous semble aujourd'hui menacé? C'était la question que s'est posée Émilie Aubry avec ses invités hier dans l'Esprit public. Un panthéon pour des valeurs que l'Europe est en train d'oublier, d'après vous? Celle de l'hospitalité, de l'accueil, de la solidarité?
Je ne le crois pas. Et très sincèrement, je pense que nous sommes un peu trop critiques avec nous-mêmes. Est-ce que vous connaissez une partie du monde qui est plus tolérante à l'égard des étrangers que l'Europe? Est-ce qu'on connaît une partie du monde où il y a eu autant d'attentats, il n'y a pas eu une réaction épidermique d'hostilité? Moi, je trouve que dans l'ensemble, et je ne parle même pas de la Willkommenskultur, la bienvenue à l'Allemande, quand on est venu au gare pour recevoir des réfugiés quasiment pour les fêter. Je trouve que dans l'ensemble, nous estimons, regardez ailleurs, on a l'impression aujourd'hui que les Européens sont quand même, dans l'ensemble, ceux qui sont le plus ouverts vers cette altérité qui est toujours un travail. Personne ne s'installe dans un autre pays en devenant du jour au lendemain concitoyen. Donc on n'est pas européen parce qu'on a mis les pieds sur le sol européen. Donc il y a un travail à faire de part et d'autre et ce travail se fait plus qu'ailleurs. Ici, il se fait évidemment aussi aux États-Unis ou en Australie, mais c'est des traditions très différentes, puisque là, on est allé dans des nouveaux mondes qui ont été peuplés par des migrants dès le début. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Londres, par exemple, il y a trois générations, était à 90% des habitants étaient des Britanniques, d'eux-mêmes, enfants de parents eux-mêmes britanniques. Aujourd'hui, plus de la moitié des Londoniens, la population est à peu près constante à un peu moins de 9 millions, sont des immigrants de première ou de deuxième génération. C'est toujours Londres, donc il n'y a rien d'effrayant. Mais cette transition s'est faite quand même assez bien, et je pense qu'on est très sévère, et parfois un peu on se bat la coulpe, comme si ça n'avait pas été un défi, et il n'avait pas été relevé d'une façon quand même, dans l'ensemble, assez remarquable.
Sauf que la majorité des migrations aujourd'hui se font quand même du sud au sud, c'est-à-dire que la part que prennent les Européens est quand même très faible.
C'est un peu faux. parce que ça, c'est le regard statique. C'est comme ça que ça se faisait. Mais l'accélération se fait bien aujourd'hui sur la migration à l'extérieur. Si vous regardez uniquement un arrêt sur image, vous allez constater que 8 sur 10 migrants restent en effet, par exemple, en Afrique. Mais si vous regardez sur la décennie, vous allez constater que l'accélération de la migration à l'extérieur du continent est beaucoup plus importante que l'ancienne façon de faire. C'est pratiquement des vasques d'une fontaine migratoire. On est parti du village dans la ville, on est allé de la ville à la campagne, aux centres régionaux, comme par exemple Lagos ou Abidjan, et aujourd'hui, on se projette au-delà. Donc, il faut mettre en mouvement l'arrêt sur image et en faire un film. Et c'est quand vous regardez le film migratoire, vous constatez qu'aujourd'hui, et demain encore plus, les gens migrent plus loin, pas seulement en Europe, mais il ne faut pas oublier ceux qui disent que les destinations s'internationalisent. Je suis bien d'accord avec eux, mais l'Europe, c'est 7% de la population mondiale qui dépense la moitié de ce qui est dépensé dans le monde pour la sécurité sociale. C'est normal que la plupart des gens viennent ici. C'est un havre de paix et de prospérité.
Vous évoquez la sécurité, la crainte des attentats qui auraient pu provoquer, selon vous, des réactions de repli encore plus fortes que ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais il faut quand même rappeler que les auteurs des attentats ne venaient pas d'Afrique ou des pays en guerre au Moyen-Orient. C'était des Européens.
Oui, très bien, mais c'est des Européens, c'est souvent des, disons donc les choses dans leur ensemble, c'est souvent des Européens de deuxième génération, donc beaucoup de gens qui remettent en question la venue d'étrangers estiment si on n'avait pas fait venir des étrangers, on n'aurait pas eu cette forme de terrorisme. Et d'autre part, j'étais à Bruxelles en marge du sommet et un responsable politique me disait, nous n'avons jamais mis le mot islam dans aucun texte officiel sur la migration. Or l'islam, qui est une civilisation aussi respectable qu'une autre, qu'est le christianisme, ça fait bien partie des problèmes. Alors je pense qu'il y a
Il n'a pas été mis dans les textes, mais il était d'après toutes les déclarations des responsables.
Mais c'est justement l'écart entre les textes officiels et ce qui est à l'esprit de tout le monde qui pose problème. Et si on avait auparavant parlé beaucoup plus directement des problèmes qui se posaient et que tout le monde se posait, on ne serait probablement pas dans la situation ni politique ni migratoire dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
Alors pour se préparer à ce qui va advenir, et nous en reparlerons après le journal de 8 heures ensemble, Stéphane Smith, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Je pense qu'il faut ouvrir l'esprit à l'idée que, par exemple, la frontière, qui est cet espace de négociation, peut par exemple servir à un accord avec des pays africains ou avec l'Union africaine pour faire venir des gens mais qui viennent dans ce que j'appellerais peut-être une migration circulatoire, c'est-à-dire qu'on revienne à l'idée que lorsque les gens sont sûrs de pouvoir revenir, ils sont aussi prêts à repartir. S'il y avait par exemple des contrats de, disons, d'une durée de séjour en Europe de 3 ans, les gens pourraient venir, ils viendraient seuls, sans leur famille, ce serait entendu, et ils repartiraient vers l'Afrique. Parce que la partie dont on ne parle pas beaucoup, surtout ceux qui sympathisent, comme moi, avec les migrants, c'est la partie perte pour l'Afrique. On ne peut pas penser qu'une région du monde va se développer en exportant son élite. Donc les gens qui viennent chez nous ou qui restent chez nous, c'est une perte nette pour l'Afrique. Et on me dit souvent, mais quand même, ils renvoient de l'argent dans leur pays. Mais cet argent, c'est de l'argent cadeau. C'est quasiment comme l'aide publique au développement. Ce n'est pas un investissement dans leur avenir. Ça fait en fait un clivage, ça fait naître un clivage dans les villages et dans les villes entre les familles qui ont quelqu'un à l'extérieur qui les subventionne et les autres. Et donc je pense qu'il faut aussi regarder l'intérêt de l'Afrique et constater que un accord avec l'Europe servira au développement de l'Afrique et non pas le co-développement qui lui en fait déracine plus les gens qui les fixent.
On va revenir ensemble dans un quart d'heure, Stéphane Smith, sur cette responsabilité qui est aussi en passe d'être transférée vers les pays du nord de l'Afrique et notamment la Libye, voire éventuellement aussi du côté du Maroc ou de la Tunisie avec la création de ces plateformes de désembarquement des migrants. Tout ça se situerait hors Union européenne. Ça fait partie des idées évoquées par les 28 à Bruxelles la semaine dernière. Stéphane Smith, vous restez avec nous. Vous êtes l'invité des matins de France Culture jusqu'à 8h30.